Les leçons de l'histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé.
Le témoin de ce vendredi, Christiane Clapiche-Zuber. Ah, quel calvaire!
Cette histoire de larron, tu t'en souviens?
Non.
Tu veux que je te la raconte?
Non.
Ça passera le temps. C'était deux voleurs, crucifiés en même temps que le sauveur. On dit...
Le quoi?
Le sauveur. Deux voleurs. On dit que l'un fut sauvé et l'autre damné.
Sauvé de quoi?
De l'enfer.
C'est un extrait dans L'attendant Godot de Samuel Beckett. Celui qui est sauvé de l'enfer a même un ticket d'entrée prioritaire pour le paradis. Il lui a suffi de faire preuve de contrition et de confiance in extremis. C'est tout de même extravagant. Christiane Clapiche-Zuber intitule d'ailleurs le livre qu'elle consacre à ce mauvais sujet sauvé, Le voleur de paradis. L'ouvrage s'appuie beaucoup sur les représentations picturales, notamment en Toscane, là où depuis la fin du XIIIe se déploie toute une grande peinture murale. La Toscane, c'est le champ d'études privilégié de Christiane Clapiche-Zuber. Mais la connaissance intime de cette région et de l'Italie n'est pas la seule explication de l'intérêt que porte notre témoin au larron. Pour la première fois dans son livre, elle laisse entendre un peu de sa vie personnelle, tandis que dans une interview dans sa revue préférée, Clio, Femme, Genre, Histoire, elle se rappelle qu'un jour, son père lui a prédit « Tu finiras sur l'échafaud ». Tu finiras sur l'échafaud, enfin, n'exagérons pas. Christiane Clapiche-Zuber était détenue en 1960-61 pour atteinte à la sûreté de l'État pendant la guerre d'Algérie. Après 9 mois, elle a été mise en liberté provisoire sans être condamnée ni relaxée. Un état d'hésitation qui ne peut que marquer et qu'heureusement pour lui n'a pas connu le bon larron.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Christiane Clapiche-Zuber, bonjour.
Bonjour.
Alors si je comprends bien, normalienne, vous êtes membre de l'Union des étudiants communistes, vous faites des passages de militants algériens vers le Luxembourg.
Oui, en 60, j'ai rencontré un militant des réseaux, du réseau Janson, qui m'a entraîné dans cette affaire. Et j'ai participé, très modestement, il faut dire, jusque pour quelques mois. Jusqu'en septembre, quand j'ai été arrêtée.
Alors là, vous avez eu un coup de foudre pour un militant algérien, c'est ça, hein? C'est ce que vous avez raconté au juge d'instruction.
Oui, un coup de foudre entre guillemets. C'était la version par laquelle je me suis défendue de toute autre collusion avec ceux qui faisaient la guerre, sans qu'on dise que c'était la guerre.
Vous l'aviez
à la
hébergé,
France.
Il a été un peu.
Je l'avais hébergé pour une nuit, et
vous avez été repéré.
Mmh, oui.
Et c'est là que, au moment de sa première visite dans la cellule de la Petite Roquette, votre père, qui appartient à une bonne bourgeoisie alsacienne et nationale, vous a dit « Tu finiras sur l'échafaud ». Puis après, il a fait le front avec vous.
Je crois même qu'il me l'avait écrit. Oui. Mais ça n'a pas duré. Ensuite, mes parents ont été impeccables et m'ont soutenu.
Alors partout, vous répétez maintenant que vous habitez à côté de la Petite Roquette, enfin du lieu, du site de la Petite Roquette qui a été démoli. Je vous propose d'écouter, ça vous ne le connaissez pas, ce témoignage d'une religieuse de la congrégation de Jésus-Marie-Joseph, je donne dans le bon ordre. Il y avait à l'époque, à la Petite Roquette, pour s'occuper des détenus, celles de droit commun, mais aussi les détenus politiques, des religieuses. L'une d'elles répond à Étienne Laloux en 1960.
Nous sommes maintenant au cœur de la prison de la Petite Roquette, dans le quartier cellulaire. Ce sont des religieuses qui assurent ici surveillance et discipline. Madame la supérieure, qu'est-ce qui est permis ici?
Permis, c'est-à-dire...
Si vous voulez, prenons le contraire, qu'est-ce qui est défendu?
C'est défendu de fumer dans les ateliers, de parler pendant le travail.
Parce que fumer est permis le reste du temps.
Ah oui, monsieur. Pendant les heures de récréation.
Il y a des récréations.
Ah oui, monsieur.
Qu'est-ce qu'elles n'ont pas le droit de faire?
Elles ne doivent pas circuler sans raison valable.
Oui.
Elles ne doivent pas tricher pour le courrier.
Oui.
Elles ne doivent pas crier, elles ne doivent pas se battre.
À quelle heure est-ce qu'elle se lève le matin?
Elle se lève à 6h30, monsieur. Et à 8h15, elle commence le travail jusqu'au repas de soir à 6h.
Et ensuite, après le repas, elle revient dans leur cellule.
Dans leur cellule.
Combien est-ce qu'elles sont dans ces cellules?
Elles sont une ou trois, monsieur.
Est-ce que vous voulez nous montrer alors une de ces cellules? Une ou trois? Jamais deux?
Jamais deux.
Et cette cellule, est-ce que la femme, tout de suite, s'y sent chez elle, à l'aise?
Oh, tout à fait au début, monsieur, elle est très désorientée. Elle subit un choc en entrant dans la cellule. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut essayer de la réconforter et de la rassurer. Mais petit à petit, elle organise sa vie dans la cellule. Elle s'attache même à sa cellule. Mais elle organise sa cellule à sa guise. C'est à peu près le seul endroit dans la maison où elle peut faire quelque chose de personnel.
Vous l'avez connue, cette sœur supérieure?
Je crois, en 1960, c'était certainement ou la mère supérieure qui nous visitait aussi dans nos cellules, ou une autre, je ne sais pas, j'ai pas reconnu sa
parce
voix.
Parce que vous faisiez partie de elle, comme dit le journaliste. En même temps, vous n'étiez pas elle, parce que vous étiez détenue politique avec une vingtaine d'autres personnes.
On avait un régime semi-politique, oui.
Dites-moi, il faut qu'on garde les aspects les plus rigolos. C'est ainsi que vous présentez souvent votre expérience de la petite roquette. C'est à cause de vous que les sœurs de Jésus, Marie, Joseph sont parties du quartier politique?
Absolument. Après une évasion de six détenus de ma division, la division politique, et qui ont préparé, enfin j'ai un peu participé dès que je suis entrée à la préparation de cette évasion, et c'était quand même une évasion de six filles faisant le mur, tous les murs. Les murs, ça ne s'était pas vu depuis toujours, je crois. Six filles d'un coup.
Et alors la bonne sœur qui couchait dans la même cellule que telle ou telle d'entre vous,
on l'avait assoupie, oui. Ah. On lui avait versé dans sa tasse de tisane quelque chose qui lui a fait bien dormir, mais malgré tout, elle a été accusée quand même de connivence, et l'ensemble des sœurs ont été, disons, débarrassées du fléau politique. Oui.
9 mois à la petite roquette jusqu'en 61, vous n'êtes jamais allée en Algérie après?
Je n'ai jamais été en Algérie, non, je n'ai jamais été. J'ai été invitée à je ne sais plus quelle cérémonie, une dizaine ou une vingtaine d'années après. Mais à vrai dire, le régime ne me satisfaisait pas trop. Et donc, non, je n'ai pas été.
Le militantisme n'implique pas la naïveté?
Non, bien entendu, les suites de la guerre d'Algérie n'ont pas forcément répondu aux vœux ni de la population algérienne, ni des militants de mon époque.
On reviendra à la prison tout à l'heure en parlant du Pont Larron. L'épisode du Pont Larron que vous explorez en détail vous a peut-être rappelé des souvenirs de votre représentation de la guerre d'Algérie et de votre séjour en prison. Mais racontez-nous quand même brièvement ce qui s'est passé après votre sortie. Vous n'étiez ni condamné, ni relaxé. Vous étiez agrégé et nommé dans un lycée qui ne pouvait pas vous recevoir parce que votre statut juridique n'était pas clair.
Eh bien, je n'avais pas signé, je me suis fait arrêter 2 ou 3 jours avant de rejoindre pour la première fois mon premier poste. Et je n'avais pas signé le procès-verbal, tout simplement, le procès-verbal d'installation qui permet de vous incorporer réellement dans les rangs des agrégés. Et donc, j'ai eu quelques difficultés ensuite, pendant, je ne sais pas, peut-être une petite dizaine d'années, à faire reconnaître que j'avais bien réussi au concours d'agrégation.
Jusqu'à ce que vous trouviez une maison hospitalière qui était l'école pratique des hautes études, 6e section. Grand animateur en était Fernand Braudel, qui vous a offert sa protection, au moins pendant un moment. C'était le domaine de ce qu'on appelait la nouvelle histoire. Alors vous dites souvent, je suis un dinosaure, moi, je date de la nouvelle histoire.
C'était pas encore vraiment la nouvelle histoire en 60. Hein, la nouvelle
histoire quantitative, sérielle.
Oui, et puis les mentalités aussi. Mmh. Donc c'était tous ces aspects-là qui contribuaient à former la nouvelle génération d'historiens. J'ai fait partie de cette nouvelle génération. Mais en tant que nouvelle histoire, c'est un petit peu plus tard, c'est plutôt dans les années fin 60-70 que le concept même a été formulé par Jacques Le Goff en particulier.
Auquel est dédié votre livre sur le Bon Larron, sur lequel on reviendra. Mais je voudrais vous faire entendre un autre maître de la nouvelle histoire, c'est Emmanuel Leroy-Ladurie, qui parlait au micro de Marc Réglet sur France Culture dans les années 1980 de votre cas un peu particulier, parce que vous êtes quand même une sorte de palétuvier ou de mangrove foisonnante, comme une ampoule, vous savez, sur les côtes subtropicales.
Ce que j'appelais le palétuvier, il y a des racines nombreuses, et puis il n'y a pas un seul tronc d'arbre. Donc effectivement, la nouvelle histoire a un côté très, très conquérant. Par exemple, nous sommes allés vers l'histoire sexuelle, l'histoire des comportements sexuels. Aujourd'hui, l'histoire des femmes a été reprise par certains historiens ou historiennes des annales, comme Madame Christiane Clapiche, Madame Perrault et d'autres.
Madame Clapiche qui s'était en d'autres temps intéressée au cadastre florentin.
C'est ça, c'est moi qui l'avais lancé là-dessus, enfin elle s'est lancée toute seule bien sûr avec un ami américain qui s'appelait Hurley He. Maintenant elle fait l'histoire des arbres aussi, mais pas des organigrammes, c'est-à-dire la façon de voir les généalogies familiales.
Et ça vous paraît un enrichissement ou une dispersion ?
La dispersion peut être un enrichissement.
Je répète, la dispersion peut être un enrichissement. Je parle de vous, la Madame Clapiche.
Je suis très flattée. Et ça me fait plaisir d'entendre Emmanuel le dire.
C'est quoi cette histoire de cadastre de Florence ?
Ah, c'était un document énorme, un document fiscal florentin du début du XVe siècle. Et que, avec cet ami américain, Hurley, que cite Emmanuel Leroy Ladurie, que nous avons mis dans l'ordinateur, ce qui était relativement neuf. Enfin, c'était les premières expériences, justement, en partie en France sous la houlette d'Emmanuel Leroy Ladurie et de François Furet. Et donc, nous avons mis dans l'ordinateur et analysé cet énorme document qui couvre toute la Toscane dépendant de Florence.
Il était temps parce que ensuite les archives ont pris l'eau.
Non, c'était après, on a commencé
après
l'étude.
L'inondation après l'inondation de 66.
Et heureusement, ces archives-là n'ont pas été mouillées c'est-à-dire quasi détruites par l'inondation.
D'où la dispersion de vos travaux, je cite le roi Ladurie, on peut quand même tirer un certain nombre de conclusions. Nous, on imagine en France que plus la famille se raccourcit, se rétrécit, plus ça permet la promotion sociale en Toscane, la famille élargie. Ça permet au contraire de mieux asseoir l'avenir.
Oui, on a un très fort sentiment dans ce genre de société de la continuité de la lignée et des intérêts communs à l'intérieur d'une famille très élargie qui ressemble même à un clan en quelque sorte. En
fait. Et puis vous êtes intéressé beaucoup à la présence souvent silencieuse des femmes dans ce castato florentin. Il y a eu d'ailleurs un tournant féministe, on peut dire ça, dans vos recherches au bout d'un moment. Le roi Ladurie n'emploierait pas ce mot-là.
Écoutez, dans le catasto, j'ai été frappée par la manière dont les femmes pouvaient être oubliées. Et je les ai cherchées à ce moment-là dans d'autres types de documentation. Et en effet, c'est là que j'ai rencontré les femmes florentines, toujours vues par les hommes, mais malgré tout très présentes. Et dans des rôles, des fonctions différentes.
On trouve des femmes, on en vient au bon larron progressivement. Dans les tableaux de la crucifixion et les grandes représentations de plus en plus panoramiques de celle-ci, dans le coin gauche, non loin du bon larron. C'est le coin gauche, mais c'est à la droite du Christ. Et à certains moments, c'est du moins un des quatre évangiles canoniques, Luc, qui le dit, le Christ est entré en dialogue avec celui qui était sur la croix, à droite de lui. N'es-tu pas le Christ, disait le mauvais larron. Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. Le bon larron, lui, à la droite du Christ, lui tient un autre langage. Les sept dernières paroles du Christ en croix, dans une version Michel Corbeau, c'est l'œuvre de Franck et de Gounod.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Christiane Clapiche-Hubert consacre un livre à ce personnage du Bon Larron, un très beau livre aux éditions Alma. Alors, c'est un personnage connu seulement par un des quatre évangiles canoniques, mais comme c'est la coutume, par exemple pour la description de la crèche, les évangiles apocryphes, d'autres sources ont enrichi, comblé les vides. Et une somme de références s'est accumulée, notamment dans l'Orient byzantin, concernant ce personnage. On lui a même trouvé un nom.
On l'a appelé assez vite Dismas. Mais quelquefois, il échangeait ce nom avec le mauvais Larron. Donc, il y a eu une incertitude, souvent, qu'on retrouve même en Occident, mais tout à fait limitée. Saint Dismas, aujourd'hui, est, à n'en pas douter, le bon Larron.
Alors, vous parlez pas mal de l'Orient byzantin, mais le début de votre recherche la plus originale, c'est en Toscane, bien sûr. Cette Toscane dont vous avez découvert les grandes peintures dès l'âge de 14 ou 15 ans, quand vous avez fait votre premier voyage avec votre grand-mère.
Oui, absolument. Je n'avais pas vraiment découvert les crucifixions plus particulièrement, mais ce premier voyage m'a ébloui et de la date, cette vocation, ce désir de travailler sur cette région, sur la peinture. Je voulais faire de l'histoire de l'art au départ. Et puis c'est une professeure qui m'a justement orienté vers l'histoire avant.
Alors, vous passez plusieurs mois par an en Toscane, vous arpentez les crucifixions. Alors, la crucifixion douloureuse, ça apparaît en Toscane, un petit peu en Allemagne aussi, dès cette fin du XIIIe siècle.
Je dirais plutôt que crucifixion douloureuse, le crucifié douloureux.
Crucifixus dolorosus, oui, mais oui. Je ne l'ai pas donné de latin.
Oui, le crucifié douloureux, c'est-à-dire représenté comme souffrant, ce qui n'était pas le cas jusqu'avant le XIIe siècle. Et à partir du XIIe siècle, au contraire, on va détailler, en accord avec la nouvelle mentalité religieuse, tout spécialement des ordres mendiants, on va détailler les souffrances du Christ de manière à ce que les croyants, les dévots, s'identifient à ces souffrances.
Mais ces souffrances, ils les voyaient, les croyants du XIIIe en Allemagne ou en Toscane. Ils les voyaient là.
Oui, justement.
Dans leur ville. Il y avait combien d'exécutions chaque année, vous avez tenté de calculer à Florence?
Écoutez, je ne sais plus les chiffres exacts, mais elles sont.
Vous dites une quinzaine, oui.
Oui, elles sont 10 fois moins nombreuses au XVe siècle qu'au début du XIVe, par exemple. Mais elles sont exposées publiquement avec un détail horrible de l'action des bourreaux. Les gens sont priés de regarder, ils sont conviés à venir assister à l'exécution. Et donc, il y a ce rapport entre les images qu'on leur présente des souffrances des trois crucifiés et ce qu'ils voient sur les places publiques, ou plutôt au lieu des exécutions.
Oui. Expérience sinon quotidienne, peut-être presque, mais en tout cas courante. Je vous propose, c'est le récit de Victor Hugo, ça se passe à Paris et pas en Toscane, mais c'est un récit supposé se dérouler au Moyen-Âge. La description dans Notre-Dame de Paris du gibet de Montfaucon.
Dans la nuit qui suivit le supplice d'Esmeralda, les gens des basses œuvres avaient détaché son corps du gibet et l'avaient porté, selon l'usage, dans la cave de Montfaucon. Montfaucon était le plus ancien et le plus superbe gibet du royaume de France. Entre les faubourgs du Temple et de Saint-Martin, à environ 160 toises des murailles de Paris, on voyait au sommet d'une petite colline un édifice de forme étrange qui ressemblait assez à un cromlech celtique et où il se faisait aussi des sacrifices humains. Sur une plateforme de maçonnerie, 16 énormes piliers de pierre brute, debout, hauts de 30 pieds, liés entre eux à leur sommet par de fortes poutres, laissaient pendre à des intervalles réguliers de lourdes chaînes noires. À toutes ces chaînes, des squelettes. Au-dessus de tout cela, dans le ciel, un vol perpétuel de corbeaux et d'oiseaux de proie. Voilà ce qu'était Montfaucon. C'était un horrible profil sur l'horizon que celui de ce monument. La nuit surtout, quand un peu de lune éclairait ses crânes blancs et que la bise du soir remuait dans l'ombre les chaînes et leurs squelettes.
Les corbeaux croasses, et je vous passe, mais c'est longuement décrit dans votre livre, Le voleur de paradis, les chiens qui attendent les os, qui vont tomber des chairs, qui se détachent.
Et c'était un accroissement du supplice que de laisser le corps. qu'ils pourrissent dans les chênes. Sinon, des confrères venaient les détacher, ou recueillaient le corps en tout cas, et partaient l'enterrer en terre malgré tout consacrée.
Des confrères. Alors ça, c'est très important dans la représentation qui, peu à peu, va s'autonomiser du bon larron. Les confrères, ceux qui apportent le réconfort, la miséricorde, les confréries.
Voilà, ce sont des membres de confréries, des laïcs, qui sont là pour accompagner les candidats au supplice et qui essayent non seulement de les réconforter, mais de les exhorter surtout à faire une bonne mort. Et une bonne mort, ça veut dire se repentir, se confesser, recevoir éventuellement, ça dépend des pays, les derniers sacrements.
Mais je ne veux pas dire qu'il y a deux branches différentes dans le christianisme. Quand j'étais gamin, le professeur de notre collège nous donnait toujours plusieurs sujets au choix pour le dernier cours de l'année, pour se détendre, et on choisissait toujours la crucifixion, parce qu'on attendait les détails, comme il y en a dans votre livre, je les recommande aux lecteurs. Les clous, bon. Mais il y a un autre christianisme, celui de la miséricorde.
Oui, bien sûr, c'est celui du Christ pardonnant au bon larron et lui promettant l'accès au paradis le soir même. Et c'est ce que les confrères prenaient comme exemple pour engager les condamnés à la peine capitale à vraiment se recueillir et à affronter la mort en se confessant.
C'est-à-dire que la condamnation sociale, c'était une chose, la miséricorde pour l'âme, autre chose.
Oui, absolument. Les autorités laïques n'étaient pas toujours d'accord avec les confrères, parce qu'elles auraient bien aimé soutirer à ces derniers confesseurs d'un condamné une dernière confession. Et évidemment, ces religieux ou semi-religieux refusaient de trahir le secret.
Mais pour une âme rationnelle, pour un esprit rationnel, l'idée que l'âme puisse comme ça arriver directement au paradis sans passer par la case purgatoire, alors qu'elle avait commis beaucoup de péchés, c'est extravagant.
C'est tout à fait extravagant, mais c'est une croyance qui se diffuse quand même. Justement, au XIVe siècle, il y a un grand débat, et un débat pas seulement dans le bon peuple, mais entre théologiens de haut niveau, souverains même, papes, sur le destin de l'âme après la mort. Est-ce qu'il sera immédiatement jugé et éventuellement envoyé directement au paradis ou en enfer ? Est-ce qu'il peut aller directement au paradis ? Et ça, c'est justement une question qui est soulevée à l'époque.
Mais enfin, le ticket prioritaire pour celui qui a commis des fautes, c'est quand même difficile à accepter.
Oui, mais il a cru dans le Christ et il a reconnu en fait la divinité du Christ. Donc, il est bon pour le paradis.
Alors, à ceux qui pourraient croire que ce voleur de paradis, c'est une histoire très ancienne, je voulais vous rappeler l'épisode Jacques Fesch, 1954-1957. Un petit peu avant que vous n'arriviez en prison. Vous étiez détenu pour des motifs politiques. Lui, Jacques Fesch, évidemment, c'était un individu de bonne famille, comme vous, mais il avait tué un policier. Les syndicats de policiers, qui avaient observé avec sympathie sa condamnation à mort, attendaient son exécution. Et le président de la République, 1957, c'est René Coty, craignant une manifestation de policiers pendant la visite de la reine d'Angleterre à Paris, a refusé la grâce pour raison d'État. Alors il meurt, mais voilà que... On s'aperçoit, alors que ça n'a pas été dit à son procès, que c'était un tout autre jeune homme que celui qu'imaginait la presse populaire. Témoignage, un peu plus tard, du fameux chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher.
Il y a beaucoup de journalistes comme moi qui ont tout de suite senti que Fesch n'était pas un assassin comme on en voit beaucoup. C'était un garçon à part. Et nous avons parfaitement senti qu'il ne cachait rien. Ça, c'est très important. Un homme qui ne cache rien dans un box de cour d'assises, croyez-moi, c'est très rare. Eh bien, lui, il ne cache rien du tout. Il ne cache rien du tout, il avait une retenue, et on s'est demandé ce qu'il y avait en lui. Eh bien, ce qu'il y avait en lui, moi, je vais vous le dire, c'est ce que son avocat y avait mis. C'est-à-dire une certaine sainteté.
Et c'est la dernière lettre à son avocat, Maître Baudet.
Je ne puis écrire cette lettre sans émotion, à la pensée que lorsque vous la lirez, je serai au ciel. Que ne puis-je par avance vous faire goûter toute la douceur de l'amour de Jésus? Hélas, le voile couvre encore mes yeux pour quelques heures, et lorsque je verrai, je ne pourrai plus partager ma joie avec vous.
C'est un extrait lu par Pierre Vanneck de la dernière lettre de Jacques Fesch. Les éditions du Cerf viennent de publier 600 pages, c'est trois fois plus gros que votre livre, Christiane Clapiche-Zuber. Les œuvres complètes de Jacques Fesch, son journal spirituel, les lettres qu'il écrivait, tous azimuts de sa prison.
Et c'est intéressant de l'entendre dire ou écrire qu'il est sûr d'être au ciel juste après sa mort. C'est exactement ce qui se passe avec le bon larron.
Alors le bon larron, il est devenu un saint, on lui a mis une auréole. À partir de quand d'ailleurs on lui met une auréole sur sa croix?
Ça, assez tôt, ouais. dans l'iconographie italienne par exemple, jamais allemande, mais italienne, il est souvent paré d'une auréole.
Oui. On l'appelle Saint Dismas, etc. Figurez-vous que le cardinal Lustiger, il y a 20 ans, pris d'un grand intérêt pour Jacques Fesch, a lancé une cause de béatification de Jacques Fesch. Alors le Figaro a dit l'Église elle a pas mieux à béatifier que Jacques Fesch.
Oui, et je comprends que l'Église se soit émue parce que la sanctification du bon larron s'est faite souvent de façon anarchique. Elle s'est faite au niveau populaire dans l'Orient byzantin. Et en Europe occidentale, les papes ont été assez longtemps réticents. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que finalement il soit reconnu comme un saint, non pas comme un martyr, parce qu'il n'avait pas souffert pour sa foi, mais il avait souffert pour ses crimes. Et la foi était venue après. Donc il pouvait être saint, mais non pas martyr.
Il suffit de dire qu'on fait acte de contrition.
Eh bien voilà. Plus que de contrition, qu'on se repent sincèrement, qu'on avoue ses forfaits et qu'on se confesse complètement et qu'on a la foi dans son salut.
Bon, la cause de béatification de Jacques Fesch n'avance pas très vite, c'est pour ça que les éditions du Cerf lancent cette offensive. Il n'y a pas encore de miracle.
Il y a eu peu de miracles du bon larron. Hein. C'est pas là-dessus que doit compter Jacques Fesch.
Il y a dans les œuvres complètes de Jacques Fesch deux pages de description sanguinolente de la crucifixion. Vous, quand vous avez lu très en détail, sans complaisance, j'espère, la description physique des supplices, là, vous vous êtes rendu compte qu'écrivant sur le bon larron, vous écriviez peut-être sur la guerre d'Algérie.
Oui, j'en ai pris conscience après coup, au moment de la rédaction de ce livre, que si j'étais si sensible finalement à cette représentation de la souffrance physique, c'est que j'avais été bouleversée quand j'avais 20 ans par la torture en Algérie. C'est clair qu'il y avait là quelque chose qui était mal guéri. Surtout aujourd'hui où on voit bien que partout dans le monde, la torture existe. Donc il y a une sensibilité, disons, qui est réactivée par... même par des images d'un genre tout à fait différent.
Tu finiras sur la croix du bon larron, on aurait pu vous dire. Votre père, le voleur de paradis, c'était aux éditions Alma. Merci à vous, Christiane Clapiche-Zuber. Cette émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Guillaume Scaillet, et à la technique, Julien Michel.